cette double existence, au fond, l'histoire institutionnelle travaille à l'oublier et surtout a beaucoup de mal à la penser. Quel est le rapport entre l'intuition bergsonienne et les snobinettes qui demandaient à leur cocher de réchauffer la place au Collège de France 4 ou 5 heures avant les cours d'Henri Bergson. Évidemment, il n'y a pas de réponse facile à ça, et je pense que cette forme d'existence sociale des concepts est un premier élément. Tu me dis combien j'ai de temps? Un quart d'heure?
Ouais, tranquille.
Ok, je ne dépasserai pas. Alors, pour dire vite, hein, je m'excuse d'en rester un peu à des généralités, mais la philosophie ne se résume jamais seulement à une collection de textes, noués entre eux par les fils de la tradition, ou la logique interne d'un corpus. Elle incorpore aussi des objets, des lieux et des pratiques. Elle inclut toutes les réceptions, y compris les moins orthodoxes. Comme tout type d'œuvre, les textes de philosophie supposent des appropriations différentes dans l'espace et dans le temps, de doctes et de mauvaises lectures. D'ailleurs, la position, le rapport docte, non-docte, peut changer dans l'histoire. Et ces textes, ces livres de philosophie n'existent que par les pactes de réception successifs qui les constituent comme des objets valorisés dans une culture. Les concepts ont une vie sociale comme d'autres objets culturels. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas, comme on l'a fait pendant longtemps, en particulier quand on était marxiste, ou quand on l'est toujours, on ne peut jamais les réduire à une autre réalité, laquelle serait précisément sociale. C'est, je crois, l'erreur de toutes les formes d'historiographie marxiste ou de la sociologie, disons, dans sa jeunesse, d'avoir voulu ne voir que le reflet d'une autre instance dans la production philosophique. Alors évidemment, au cours du temps, on s'est ingénié à améliorer la notion de reflet. Alors tout le monde me dit, mais vous pourrez me dire, mais quoi, ça c'est le vieux truc de Stahl, mais si vous regardez bien la sociologie, vous verrez qu'on a amélioré les systèmes optiques par des histoires de réfraction, de diffraction, je ne sais plus qui parlait de diffraction, mais que ça continue quand même à fonctionner comme ça. Alors, dans mon travail plus récent, je suis parti, comme tout jeune, d'un point de vue un peu idiot, qui était de vouloir croiser le fer avec plus fort que moi, c'est-à-dire le philosophe, pour avoir, bien sûr, pour venir pour avoir le dessous, parce que je sais ce que c'est qu'un rapport de force. Et donc, du coup, en vieillissant, on devient à la fois plus vicieux, disait Claude Chabrol, dont je salue la mémoire, et plus prudent. Et donc, j'ai dit qu'il fallait quand même être plus respectueux avec justement les formes conceptuelles et ne pas les réduire ni à des étiquettes, ni à des écoles, ni à des idéologies. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Bruno Latour. Il se trouve que j'ai fait la connaissance de Bruno Latour le 18 septembre 1975, au moment où il arrivait dans le laboratoire de Roger Guillemin. Et donc j'ai fait une observation assez participante de sa propre observation. Et donc j'attends la retraite pour livrer, disons, une version savante, bien sûr, de ce travail qui, je crois, me vaudra votre hommage. Alors, Latour a raison de nous dire que le monde social est plat. Et justement, par rapport à tout ce que Althusser aurait pu appeler, en parlant à la fois de Freud et de Marx, une topique, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, je ne sais pas ce qu'en penseront mes camarades, de cette notion pour penser précisément les formes d'articulation entre des objets matériels et des objets conceptuels. Alors, parler de vie sociale des concepts, bien sûr, ce n'est pas s'ingénier à leur faire vivre la vie des autres. Moi, je n'ai pas l'autorité pour dire des constructions conceptuelles qu'il s'agit de fausse conscience ou de l'expression d'intérêt de classe, mais d'autres peuvent le faire sans doute. Donc, je pense qu'un concept doit être pris au sérieux comme on prendra n'importe quel objet de la vie matérielle ou n'importe quelle pratique au sérieux. Alors, l'histoire intellectuelle pour laquelle je plaide n'a ni intérieur ni extérieur. Elle va chercher ses ressources et ses modèles en des points variés de l'histoire des constructions symboliques ou dans l'espace social, et elle se délocalise ou se relocalise en permanence. C'est ce que font aussi les concepts qui ont, comme je disais, plusieurs modes d'existence dans des espaces qui sont quelquefois séquents, d'autres fois superposés, ou quelquefois sans lien entre eux. Donc ce va-et-vient entre l'universel et le paroissial, il correspond à la plupart des activités sociales, mais je pense qu'il est particulièrement aigu, sensible dans l'activité intellectuelle. Alors, je vais vers la fin. Peut-on éviter les apories habituelles à propos de l'articulation entre des textes et des contextes ? Alors, lorsque la sociologie veut apporter sa modeste contribution à l'explication d'une dynamique intellectuelle, elle le fait, vous vous en souvenez si vous avez lu de la sociologie, elle le fait très souvent en parlant, disons, de facteurs sociaux ou de conditions sociales de... je l'ai fait dans le temps beaucoup. Donc c'est une forme de détermination sociale partielle. Un objet social a en partie des causes sociales, puisque ces facteurs sociaux, ils ne sont pas tous les facteurs, ils ne sont qu'une partie des facteurs. Et si vous y réfléchissez deux minutes, vous verrez que parler de facteurs, de conditions, d'influence, etc., parler le langage des variables sociologiques, pour dire vite, c'est aussi, être conduit à d'infinies contorsions logiques. Qu'en est-il d'un facteur social à l'œuvre dans une activité dont on peut dire alternativement qu'elle est par elle-même et de part en part sociale, comme n'importe quelle activité humaine, y compris les plus conceptuelles, ou que les éléments sociaux qu'elle peut contenir accidentellement ne jouent aucun rôle dans le cours de son développement logique ? Doit-on supposer qu'il y a des lieux plus sociaux ou plus susceptibles d'une explication sociale que d'autres ? Alors, je crois que l'analyse, et je m'arrête là pour conclure, l'analyse de l'histoire sociologique de la philosophie met en question les formes usuelles d'explication qui condamnent à penser le social par thèse, extra par thèse. Lorsqu'on évoque les conditionnements sociaux d'une activité quelconque, y compris intellectuelle, tout en reconnaissant qu'il n'en constitue pas toute la signification, c'est toujours un bout du social qui détermine un autre bout du social. La grille d'analyse fondée sur la mise au jour de facteurs sociaux se révèle à l'usage une impasse. Il est impossible, vous pourrez faire le test vous-même chez vous, de sortir d'une évaluation extrêmement imprécise, vague, des notions de facteurs, de conditions ou d'influence. Je termine, puisqu'au fond, tout ce que disait Christian à propos, et Bruno Latour avec les Science Studies a joué un rôle très, très important dans ce dispositif, le basculement de l'intérêt des observateurs, des savoirs, vers, disons vite, les pratiques, eh bien, il a été, et vous êtes une des exceptions, et je connais les travaux des Lyonnais parce que j'étais président du comité du Cluster 13, alors je connais bien ces travaux qui sont tout à fait fascinants. Je crois que la philosophie est quand même assez largement échappée aux formes d'investigation organisées à partir des stratégies d'observation que rappelait Christian. Et l'histoire de la... Bien entendu, parce que c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup moins de traces visibles, il y a beaucoup moins de pratiques collectives, comme celle du laboratoire de cette jeune femme gantée que montrait Christian Jacob, etc. Et donc, de ce fait, plus que d'autres histoires disciplinaires, l'histoire de la philosophie, même si j'ai noté les nombreux bougés depuis 40 ans, tend toujours à rester prisonnière, un peu excessif, peut-être, de schèmes d'intelligibilité tout entier ancré dans des macro-structures et qui n'a peut-être pas pris suffisamment en compte les distances, disons, avec une problématique qui verrait dans les concepts autant de fragments d'idéologie dont on pourrait repérer la source ailleurs. Alors, de ce fait, l'analyse des débats et controverses dont tu parlais tout à fait pertinemment n'a pas eu, je pense, dans l'histoire de la philosophie, la place qu'elle aurait dû avoir. Et c'est pour ça que j'ai fait à deux reprises une analyse rapide, et pas philosophique, mais plutôt justement sociologique, autour des coûts échangés de la lecture très antagoniste que Michel Foucault et Jacques Derrida ont faite de la première méditation de Descartes. Alors, je conclurai en disant qu'effectivement, quand on fait de l'histoire de la philosophie de cette façon, on est contraint, comme nous l'ont appris il y a une bonne vingtaine d'années les historiens de la micro-histoire, qu'on peut faire varier par hypothèse les conditions de l'observation, principalement à travers l'échelle ou la focale de l'objectif. Ainsi, on peut, et je m'arrêterai là, on peut analyser la controverse célèbre qui opposa Derrida à Foucault en la considérant comme une controverse instituante qui définit des camps, qui trace une ligne de partage concernant l'exercice même de la philosophie. Hein, c'est ce que dit Foucault à Derrida, ta petite pratique, là, ta petite pédagogie, c'est une pratique de prof de philo, et moi je ne fais plus ça. Et puis, on pourrait, en étant, là je me risque sur des terres, sur des rives où je vais probablement tomber dans des sables mouvants, on peut aussi considérer, d'un autre point de vue, qu'il s'agit que ce moment peut être lu à partir de la notion d'épistémé, qui prédéfinit un espace de jeu, un ordre des questions et un type d'articulation défini entre des discours et des pratiques. Et donc, je pense que parler de la philosophie française, c'est mon dernier mot, c'est précisément se donner les moyens, et c'est ce que j'ai fait dans ce petit opus dont Philippe parlait avec trop d'indulgence, c'est précisément se poser la question du choix de l'échelle ou de la possibilité d'offrir un principe de variation assorti, je crois, d'une interrogation, puisque toutes les histoires de la philosophie sont des récits. Hein, donc moi j'ai voulu rompre avec la chronologie, j'ai voulu rompre avec le récit pour essayer de poser la question de qu'est-ce que c'est que mettre la philosophie en récit. Et je crois que ce seraient les deux choses au fond que je suggérerais sans vouloir, je suis pas un prosélyte, mais ces deux aspects au fond, s'interroger sur les principes de variation du point de vue de l'observateur et qui peut donner lieu effectivement à des manières d'écrire l'histoire tout à fait différentes, et puis de l'autre effectivement s'interroger aux formes narratives qui, essentiellement dans l'espace scolaire, nous ont conduit à penser l'histoire de la philosophie telle que nous la pensons aujourd'hui. Merci.